La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour, chers auditeurs de Radio Présence. Bienvenue à cette émission, La prédication protestante. Je suis le pasteur Luc Goyot, pasteur sur Colomiers et nouvellement aussi sur une implantation à l'île Jourdain, dans le Gers. Et je suis très heureux de pouvoir partager ce temps de méditation avec vous. Pour rappel, nous avions vu dernièrement une prédication sur la parabole du semeur qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13. Nous avions commencer à étudier cette parabole en étudiant le premier des quatre terrains dont nous parle cette parabole. Si vous voulez bien, on va la lire ensemble, on fera un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, puis on ira un peu plus loin. Nous lisons donc dans Matthieu, chapitre 13, des versets 1 au verset 9. Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. C'est une première parabole qu'il donne dans ce chapitre 13 où il y a plusieurs paraboles. Vous pouvez lire ce chapitre si vous le voulez pour voir quelles sont ces paraboles. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Nous voyons ici que Jésus parle d'un semeur et d'une semence. Le semeur, c'est Dieu. La semence, c'est sa parole. Le premier terrain dont il est parlé, il y a quatre terrains donc, vous l'avez remarqué. Le premier terrain dont il est parlé, c'est le chemin. Nous avions vu la dernière fois que le chemin, c'est l'image d'un terrain où le sol est dur. Pourquoi il est dur? Parce qu'il a été piétiné. Les terrains représentent dans la parabole nos cœurs. Le cœur de l'homme, l'être intérieur de l'homme, pas le muscle, hein, l'être intérieur de l'homme. Et parfois, nos cœurs sont durs. Ils sont durs parce qu'ils ont été piétinés. Nous avons vu la dernière fois que soit c'est les blessures, les traumatismes qui endurcissent ce cœur, mais il y a aussi une autre raison pour laquelle notre cœur peut être endurci, c'est l'orgueil, l'amour-propre. Et devant la parole de Dieu qui est annoncée, comme c'est le cas cet après-midi alors que vous écoutez cette émission, eh bien nous pouvons présenter un cœur dur. Un cœur dur à cause des blessures en disant ben, « ne me parlez pas de Dieu, si Dieu existait, je n'aurais pas vécu tout cela ». Et donc on se protège, ou parfois c'est pas contre Dieu qu'on en veut, mais on a peur d'être à nouveau blessé, manipulé par un leader religieux, par un mouvement religieux. Et donc on se ferme, on se protège, ce qui est un réflexe normal quelque part. Et puis l'orgueil aussi. Moi je n'ai pas besoin de Dieu. Je sais très bien ce que j'ai à faire, je suis assez grand pour m'occuper moi-même de ma vie, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de la religion. C'est une autre possibilité d'endurcir son cœur aussi. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Là, on va aller un peu plus loin en voyant les deux terrains qui suivent. Le premier terrain qui suit, c'est le terrain avec de la pierre. Et pour aller rapidement, je dirais que ce terrain, c'est l'image d'un cœur qui est superficiel. Alors je rappelle quand même une chose importante, c'est qu'un semeur digne de ce nom ne sème pas sur le chemin. Il ne sème pas là où il y a des pierres et il ne sème pas là où il y a des ronces et des épines. Il sème sur la bonne terre, sur le dernier terrain. Alors pourquoi on voit ici que Dieu sème sur ces terrains? Ça ne peut pas être aléatoire. Un agriculteur peut envoyer de la semence sur ces terrains parce qu'avec le vent ou autre, bien, alors qu'il sème sur son champ où il y a la bonne terre, bah les graines qu'il sème peuvent être éparpillées ailleurs. Dieu ne fait pas les choses par inadvertance. Donc il sème sciemment sur ces terrains. Pourquoi? Parce que Dieu aime les personnes, quelles qu'elles soient. Et même si on a un cœur dur, Dieu nous aime, donc il va semer sa parole dans nos cœurs durs. Il sème aussi sa parole dans nos cœurs, même si on est superficiel, même si c'est étouffé par les épines, on verra ce que ça veut dire tout à l'heure. La superficialité, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on le rencontre de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le siècle du fast-food, de tout ce qui doit être fait rapidement. On veut les informations rapidement, on veut les solutions rapidement, on veut tout faire rapidement parce qu'on n'a pas le temps et nos emplois du temps sont surbookés et donc on fait tout en vitesse. Or, s'il y a une chose qu'on ne peut pas faire en vitesse, c'est recevoir la parole de Dieu, la semence de Dieu. Une chose qu'on ne peut pas faire en vitesse, c'est faire une démarche spirituelle pour rencontrer Dieu. Cela ne peut pas être superficiel. Parce que comme je le dis Jésus dans l'image qu'il donne dans cette parabole, il dit que la semence donne rapidement du fruit, parce qu'elle n'a pas pu aller en profondeur, mais ce fruit a tellement peu de force et de vie en lui, il a été tellement rapide dans sa croissance, que dès qu'il y a le soleil, c'est-à-dire dès qu'il y a un contretemps, une adversité, quelque chose de difficile, eh bien, le fruit se fade, la fleur se fade. Et ben, quand il s'agit de la foi, on rencontre souvent ces choses, des gens qui sont tout feu, tout flamme, à l'écoute de la parole de Dieu, mais derrière, ils n'ont pas approfondi les choses. Et du coup, eh bien, cette semence n'a pas pu porter le fruit qu'elle devait porter. Un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, au verset 20 et 21, nous avons de la chance, c'est une des paraboles que Jésus explique. Ce n'est pas toujours le cas. Et il dit ceci, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. » Et combien nous avons d'auditeurs dans nos églises qui disent « Oh, que pasteur, que ce discours était merveilleux, c'était formidable, j'ai envie d'adhérer à ces choses. » Mais en fait, derrière, il n'y a pas une suite sérieuse pour venir à l'église, étudier la parole, l'étudier soi-même, lire la Bible régulièrement, prier, avoir une relation avec Dieu. Si ces choses ne sont pas établies, ça reste à l'état superficiel. Et Jésus continue en disant, il n'y a pas de racine en lui-même. Il y a un manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Vous comprenez que ce que j'ai dit est important. On ne peut pas avoir une démarche superficielle lorsque l'on veut rencontrer Dieu. Le cœur superficiel, c'est celui qui n'est pas opposé au discours religieux, n'est pas opposé à ce qu'on lui parle de Dieu, il est même parfois sympathisant. Le cœur superficiel, c'est celui qui veut voir tout de suite et rapidement les effets. Ah, j'ai reçu la semence, maintenant il va se passer des choses extraordinaires et il veut que tout arrive tout de suite. Or, il y a des choses pour lesquelles il faut prendre du temps. Le cœur superficiel, c'est celui qui ne persiste pas, qui ne persévère pas. Et c'est le mal du siècle. C'est le mal du siècle. Les gens commencent quelque chose et le laissent. On le voit dans tous les domaines, à tous les niveaux de la société, et notamment dans le domaine associatif, où les gens s'investissent un an, deux ans, et puis partent. Et on a du mal à voir des gens qui s'investissent sur le long terme. Un cœur superficiel, c'est aussi quelqu'un qui manque de profondeur. Jésus fait allusion aux racines. Il faut que la semence puisse venir au plus profond de notre cœur, amener des bases solides. Le changement est possible sur le terrain pierreux. Pourquoi ? Parce que Dieu est capable d'enlever les pierres et de permettre que ton cœur, qui est plein de pierres, puisse devenir une bonne terre. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23, l'apôtre Pierre nous dit « Vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Ce qui fait que, eh bien du coup, cette semence qui est donnée, c'est pas n'importe quelle semence. Une semence lambda, vous la posez à un endroit qui n'est pas convenable, eh bien il va se passer ce qu'on voit. Elle va sécher sur le terrain, puisqu'elle ne rentrera même pas en terre. Elle va sécher au bout d'un moment parce qu'elle n'aura pas eu de profondeur sur le terrain pierreux. On verra sur le terrain épineux, c'est une autre problématique. Mais la parole de Dieu, c'est une semence qui ne meurt pas. Donc même si votre cœur est dur, la semence, elle reste. Elle est posée dans votre cœur. Et un jour, si votre cœur devient disposé, devient une bonne terre, ben cette semence va pouvoir germer. Le Seigneur est quelqu'un de patient. L'apôtre Jacques nous parle du laboureur comme quelqu'un de patient. Et Dieu est patient. Dieu est patient. S'il ne voit pas la fleur ou la plante monter rapidement, il attend. Et il sait qu'un jour, la semence portera du fruit. Dans Jérémie 29, 13, le peuple de Dieu est invité à chercher Dieu. « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ok ? Il faut qu'il y ait une action de persévérance pour aller jusqu'au cœur de Dieu. Hébreux 4, 12, « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » On doit laisser le temps à la semence de germer, être patient. C'est nécessaire, car les tempêtes, la persécution auxquelles Jésus fait allusion dans l'explication de la parabole, les contrariétés, les événements difficiles, les moments de doute vont être là. Et si la semence n'est pas inscrite d'une manière durable, eh bien nous allons rapidement perdre la foi. Est-ce que tu veux connaître un changement de ce côté ? Est-ce que tu reconnais que ton cœur est superficiel et que tu as besoin de reprendre ta démarche, la démarche spirituelle que tu as déjà entamée, d'une autre manière, en allant vers la foi en profondeur, en étudiant la parole, en fréquentant une église où la parole t'est expliquée, en ayant des temps de relation privilégiés avec ton Seigneur. Et ainsi, tu pourras traverser l'épreuve, la difficulté, en tenant bon dans la foi. Le terrain qui suit, c'est le terrain épineux. Dans Matthieu 13, 22, l'explication que donne Jésus sur le terrain épineux est la suivante. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Infructueuse, ça signifie qu'elle ne va pas donner de fruits. Or, le but d'une semence, c'est qu'elle porte du fruit, on est bien d'accord. Donc là, encore une fois, c'est un terrain où il y a impossibilité que le fruit, un fruit réel, soit porté. Le terrain épineux, c'est l'image d'un cœur qui est envahi par toutes sortes de préoccupations. Et Jésus donne clairement quelles sont les préoccupations qui peuvent envahir notre cœur. Elles sont de deux sortes. La première, c'est les soucis. J'ai l'habitude, quand je parle de ce texte, de demander à l'auditoire « Est-ce que quelqu'un n'a pas de soucis qu'il puisse lever la main ?» Et je n'ai pas souvent vu des gens, j'ai vu quelques fois, mais c'est très rare, les gens lever la main. On a tous des soucis. Il faut se nourrir, il faut manger, il faut se loger, il faut se chauffer. Parfois, la santé, c'est pas tout à fait ça. Parfois, nous avons des souffrances personnelles, souffrances relationnelles, autres. Nous pensons aussi à la mort. Et nous pensons à l'avenir, avenir scolaire pour les enfants ou pour les parents qui s'occupent de leurs enfants, avenir professionnel, avenir familial, est-ce que mon couple va tenir ? Est-ce que je suis peut-être en crise dans mon couple actuellement ? L'avenir écologique de la planète, etc., etc. Les enfants, les petits-enfants, les parents qui vieillissent, les sujets ne manquent pas. Jésus dira ceci: « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» C'est un premier texte que je veux laisser sur votre cœur parce que moi, il m'a beaucoup aidé. En fait, Jésus est dans une logique qui n'est même pas spirituelle. Ici, c'est une logique de bon sens. Est-ce que quelqu'un, en s'inquiétant, a résolu son problème ? Parfois, nos inquiétudes ne font que l'aggraver. Un peu plus loin dans le texte, Jésus dit « Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les non-croyants qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. » Ce sont des bons conseils que nous donne Jésus ici. Donc nous devons, pour pouvoir vraiment nous approcher de Dieu et laisser cette semence prendre dans nos cœurs, nous débarrasser de nos inquiétudes. Je sais que je parle de quelque chose de difficile pour les tempéraments qui sont plutôt anxieux de nature. C'est difficile. Mais demandez à Dieu de vous venir en aide. Et il le fera. Il vous donnera la paix, cette paix dont l'apôtre Paul parle, au milieu de la persécution et de la prison. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Le deuxième point que Jésus voit, c'est la séduction des richesses. La sollicitation permanente de notre société sur tout ce qui est argent, consommation, matérialisme, la spéculation, crypto-monnaie et les jeux d'argent et tout ce qu'il y a aujourd'hui. Toutes ces choses-là, c'est la séduction des richesses de ce monde. Or, la Bible nous prévient sur les dangers de l'amour, de l'argent et du matérialisme. Dans l'Épître à Timothée, la première, au chapitre 6 au verset 9, l'apôtre Paul prévient Timothée, et lui dit « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » On est dans cette société aujourd'hui, n'est-ce pas ? On est dans cette société, et quand on lit que Dieu nous a prévenu que l'amour de l'argent, ce serait la racine de tous les maux, on y est en plein. L'argent fait que des actionnaires s'en mettent plein les poches pendant que des gens, des pères de famille, des mères de famille sont licenciés, etc., etc. Des inégalités incroyables dans un même pays, dans une même entreprise. Et sur la planète, n'en parlons pas, des gens qui meurent de faim pendant que d'autres jettent leur nourriture à la poubelle. C'est ça le monde qu'on a créé avec l'argent et avec l'absence de Dieu. Dans Matthieu 6, 24, Jésus dit ceci: « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et on l'a lu tout à l'heure, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Quand quelqu'un vous dit qu'il est chrétien et qu'il parle toujours de sa maison qu'il va acheter, de son dernier ordinateur et de son dernier smartphone, il y a un problème. C'est pas sa priorité, ce n'est pas le royaume de Dieu. Ce sont les richesses de ce monde. J'aimerais terminer en vous disant que là aussi, sur le terrain épineux, le changement est possible puisque on l'a dit, et je ne répète pas ce que j'ai dit pour le terrain pierreux, la semence est incorruptible. La semence est incorruptible. Et même s'il y a des fleurs qui étouffent, etc., et que le fruit ne peut pas prendre vie pendant un temps, Dieu est patient, sa semence est une semence de vie, elle est là à l'intérieur de vous. Ce message que vous recevez cet après-midi est là à l'intérieur de vous pour toujours. Il ne vous quittera plus. Il est là, peut-être vous l'enterrez, peut-être il sera étouffé justement, mais la vie reste à partir du moment où vous avez reçu la semence, et je suis dans la foi pour croire qu'à un moment donné, les circonstances créées par Dieu feront que votre terrain va être défriché, débroussaillé, dépierré, pour que vous puissiez présenter une bonne terre, devant Dieu, devant sa parole, afin qu'elle puisse faire le changement qu'elle doit opérer dans nos vies. C'est ce qu'on verra la prochaine fois qu'on parlera de cette parabole. Le fruit qui peut être porté dans nos cœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ne fermons pas nos cœurs, n'ayons pas un cœur dur comme le chemin. Ne soyons pas superficiels, n'ayons pas un cœur envahi par toutes sortes de choses, mais présentons un cœur avec une terre tendre, c'est ce qu'on verra, pour que le fruit soit porté en nous. Amen. Je vous invite vraiment à faire cette prière. Change mon cœur, Seigneur, qu'il soit un cœur tendre et disponible devant toi. Merci, Seigneur, pour ce temps. Nous prions ensemble. Seigneur, bénis les auditeurs qui ont entendu ce message. Je te les confie et je crois que, Seigneur, par le Saint-Esprit, tu fais ton œuvre et que la parole va prendre semence, que ces auditeurs vont désirer maintenant lire ta parole, l'étudier, rejoindre une église où on explique la parole, on l'étudie, prier, avoir des moments de relation personnelle avec toi, afin qu'ils puissent voir un fruit nouveau dans leur vie, un changement dans leur cœur. Merci Seigneur pour ces temps, à toi soit toute la gloire. Amen. Au revoir, à bientôt, que Dieu vous bénisse.
J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce
tonight.
donnant ta vie pour moi.